ça continue dans l'émotion. Merci Hello. Donc, un petit pupitre pour me rapprocher de vous. Merci. L'avantage qu'il y aura dans 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, quand on va se retrouver seul dans ce bâtiment, c'est qu'il y aura beaucoup moins de matériel. Du coup, on sera plus embêté pour bouger les choses, ça ira beaucoup plus vite. Non, merci à tous d'être là. Il y a plein de gens, des nouveaux, gens que je connais pas, etc. C'est génial de voir tout le monde là. Merci aux visiteurs de l'ADD, d'autres églises, des gens qu'on a vus il y a pas très longtemps, qu'on aime beaucoup aussi. C'est vraiment super de tous être là cet après-midi. Merci d'être venus. Et avec le temps de louange qu'on vient de vivre, en tout cas moi personnellement, j'ai vécu un temps de louange très fort. Avec quelques larmes aussi et tout, et c'est marrant comme rapidement on peut se dire si on pleure dans la louange ou quoi, on a souvent tendance, je trouve, et souvent dans les églises, à dénigrer un peu les émotions qu'on peut avoir quand on est touché par Dieu, quand on est touché par l'amour de Dieu. Et puis alors que j'avais des petits mensonges comme ça que l'ennemi essayait de me mettre, j'entendais dans ma tête pendant la fin de ce temps de louange, je repensais à Jésus qui s'était mis tellement en colère contre ces marchands qui arnaquaient les gens dans le temple. Je repensais à Jésus qui était ému de compassion, et que c'était ça qui le poussait à guérir les malades. Et je me disais, purée, mais si Jésus osait exprimer ses émotions, qui sommes-nous pour les retenir et dire que c'est pas spirituel? Bien sûr, il faut un équilibre dans toute chose, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être aider, mon cheminement personnel pourrait parler à certains, donc je vous le partage. Donc je vais essayer maintenant d'accéder à mes notes. Il y a eu un petit changement de programme, en fait, j'étais pas censé prêcher aujourd'hui, et au dernier moment, hier à 16h, pour tout un tas de raisons, on a dit, bah tiens, finalement ça va être toi Mathieu. C'est pas un gros problème vu que j'aime énormément faire ça, j'aime partager ce que Dieu me dit à mes amis, donc vous êtes mes amis aujourd'hui, vous êtes devant moi, donc voilà. Mais c'est super parce que dans la semaine j'étais au travail, et vous savez, moi comme je travaille quand même comme infirmier libéral, souvent mes messages sont préparés dans la semaine entre deux patients. En fait, je mets de la louange et puis là j'ai des petits téléchargements comme ça qui descendent de Dieu, et tout de suite j'ai mon portable à côté de moi, donc je note et c'est marrant. Jeudi matin, j'avais passé un temps fort dans la voiture avec Dieu, je vais vous raconter un peu, mais et j'avais pris mes notes sur mon portable et j'avais noté, j'avais dit ça c'est pour un futur message, mais j'avais écrit ça comme ça quoi. Et puis hier après-midi je me suis dit, ah ben c'était peut-être pas un hasard, donc c'est chouette. Donc voilà, c'est beau. C'est beau ce que Dieu fait. Encore une fois, je blablate un peu, mais ce n'est pas du blabla inintéressant. Quel privilège de vivre ces temps de louange. Ces temps. Merci Olivier, merci Ben, merci Audrey. C'est tellement génial. Même si je vous promets que des fois, moi, dans ces moments-là, je ne sais pas trop. Je me dis, mais est-ce que je dois vraiment prêcher? Qu'est-ce qu'on doit faire quoi? Mais pour moi, c'est quand même bon signe quoi. Quand on est là, quand la gloire de Dieu vient, quand on est touché, qu'on est baigné. Enfin bon, venons-en à ce message. Donc j'ai intitulé ce message « Le flot de la grâce ». Le flot, L-O-T, je pense que c'est un mot français, le flot comme les flots. C'est peut-être pas L-O-T d'ailleurs. Si, c'est L-O-T ? Si, c'est ça. L'orthographe n'est pas ma grande spécialité. Mais le flot de la grâce, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup, c'est mon petit côté... Dans ce que je fais dans l'église, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est vision, à long terme, où est-ce qu'on va, on se réunit entre équipes, on parle de ces choses, mais c'est vrai que moi, c'est des choses qui bouillonnent sans cesse en moi, et j'avais envie, on est encore en début d'année scolaire, mine de rien, bien que ce soit déjà presque les vacances, la semaine prochaine pour certains, mais j'avais envie encore d'appuyer sur une des choses que j'avais partagées au week-end de rentrée, il y a un mois, donc enfin il y a deux semaines, parce qu'on avait parlé, comme tout bon week-end de rentrée, on avait parlé de la vision, on avait parlé des 3 A. Donc pour les nouveaux, les 3 A, c'est un petit peu ce qui nous guide dans tout ce qu'on vit à l'église: adorer Dieu, apprendre à vivre comme Jésus et aimer servir notre ville. Ça, c'est un peu notre notre fil conducteur. Mais en fait, ces derniers temps, Dieu nous a parlé sur d'autres aspects de tout ça, et comme quoi, ben voilà, Dieu ne cesse de se répéter. Il y a sans cesse des nouveaux aspects des mêmes choses que l'on vit. Et là, c'est un peu ça que je voulais vous partager cet après-midi, parce que au week-end de rentrée, si vous vous rappelez, j'avais énormément choses qui n'étaient pas dans mes notes à la base, mais j'avais beaucoup insisté sur le fait que l'Église, c'était pas comment dirais-je, le être réunis le dimanche comme cet après-midi, c'était pas une fin en soi, mais que c'était comme un camp, comme un entraînement de commando où on venait ensemble, on se faisait du bien, on se formait, on s'encourageait pour après être lâché dans le monde, enfin partout où on va, quoi, au boulot, avec nos amis, tout ça, et porter du fruit et amener. On avait beaucoup insisté sur le fait d'amener le royaume, et après, si vous vous rappelez, on s'était mis par petits groupes, et concrètement, on avait vu comment, à partir des années 61, on pouvait amener les divers aspects du royaume de Dieu là où on se trouvait. Et là, j'ai senti Dieu me parler de ça sous un autre angle, et ce flot de la grâce. Pourquoi flot, pourquoi grâce? C'est lié à ce que j'ai vécu jeudi dans ma voiture, où je vous raconte encore un tout petit peu ma vie, mais c'est riche, les témoignages. Vous savez, quand on raconte les témoignages, enfin moi en tout cas, je suis extrêmement béni par les témoignages des personnes qui me racontent, qui vivent avec Dieu. Et ce message est venu de là, où jeudi matin, moi je suis un lève-tôt naturel. Bon, les infirmiers ne se lèvent pas tôt, ils se lèvent très tôt. Pour ceux qui le sont dans la salle, vous pourrez confirmer. Et d'habitude, je me lève assez facilement, je sors du lit, ça y est, je suis parti. Enfin voilà, les lève-tôt naturels comprendront ce que je veux dire, les lève-pas-tôt naturels comprendront la douleur associée à ces mots, 5h15 du matin ou 5h30, etc. Ça, tout de suite, ça vous fait mal. Et moi, c'est comme si ce jour-là, je m'étais retrouvé comme un couche-tard plutôt qu'un lève-tôt. Et en fait, le réveil a sonné. Et vous savez, il y a des jours, vous levez et vous avez l'impression qu'il y a la misère du monde qui est sur vos épaules. J'avais froid. Il ne faisait pas froid. Il y a un redoux, était indien, ce que vous voulez. Il ne faisait pas froid, mais j'étais gelé. J'arrivais pas à me lever. J'étais déprimé. J'étais mal, quoi. Et c'est un de ces moments où vous vous dites, pétard, la journée va être très, très longue. En plus, quand elle commence à cette heure-là, logiquement, elle va être longue déjà. Mais là, vous vous dites, elle va être très, très longue. Et du coup, je pars tant bien que mal, je bois un petit café, je me mets dans ma voiture, je pars. Et là, je mets de la louange parce que, vous savez, ce n'est pas ces fois-là où vous dites « c'est bon pour moi d'écouter de la louange, donc je choisis de mettre de la louange pour passer un temps avec mon Dieu ». Non, là, c'était « si je mets autre chose que de la louange, ça va empirer mon état. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, donc vite, un CD de louange, urgence ». Donc, je mets ce CD de louange, je ne sais même plus lequel, mais c'est fou comme… Et ça m'a vachement parlé, ton chant. C'est toi qui as écrit ce chant, Olive. Pff, magnifique. C'était, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je l'ai énormément aimé. Et ça m'a vachement parlé, ce passage de la Bible qui parle du désert que Dieu transforme en source. Parce que c'était ça. Ce matin-là, je me suis levé, c'était vraiment dans un état désertique intérieurement. Et comme juste le fait d'appeler Dieu au secours, juste le fait de mettre une bonne nourriture spirituelle, une bonne louange, en quelques minutes, j'ai tout simplement senti l'amour de Dieu rentrer dans mon cœur. On parlait des émotions, je ne pense pas que c'était pour le coup des émotions, je pense vraiment que c'était quelque chose, c'était dans le domaine du spirituel. J'ai senti l'amour de Dieu, parce que, pourquoi je dis ça comme ça? Parce que d'un coup les choses ont changé, d'un coup mon cœur a changé, mon regard a changé, alors que j'étais déprimé, je me suis senti rempli d'entrain, rempli même d'entrain pour faire mon travail, bien le faire. Vous savez, des fois, à ces heures-là, des fois, je raconte dans notre groupe d'hommes, là, je racontais un peu ma première patiente. Des fois, j'arrive le matin, c'est la cata, quoi, quand j'arrive chez elle. Donc, c'est un peu dur. Mais je me retrouvais, voilà, rempli d'entrain, d'affection, de trucs, de bien vouloir la bénir, lui poser des questions sur sa vie, comment ça va et tout, presque à deux doigts de prier pour elle, voilà, de l'évangéliser. Bon, je pense qu'elle n'aurait pas trop compris à ce moment-là. Mais vous voyez l'état dans lequel, d'un coup, paradoxalement, je me suis retrouvé. Et certains parlent de discours motivationnels, certains... Voilà, non, c'est pas ça, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus, c'est grâce à sa mort et sa résurrection sur la croix. Il y a sa puissance qui est accessible, et sa puissance peut tout changer, y compris l'état le plus noir de nos cœurs, quoi. J'ai mis une photo, est-ce que vous pouvez retrouver sur le bureau, il y a écrit une photo qui s'appelle photo Jésus ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui a partagé ça sur Facebook. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, Connect, on en parlait hier soir avec des amis. C'est une église un peu bizarre. Il n'y a personne sur Facebook. Les gens font un peu une allergie aux réseaux sociaux. Il y en a plein qui n'ont pas de télé. Il y en a plein qui n'ont pas Facebook. On est une église hyper spirituelle, c'est sûr. Mais du coup, quand vous voulez partager des trucs sur Facebook, logiquement, personne n'est au courant. Donc, si vous trouvez ça, je veux bien. Mais ce n'est pas une urgence absolue. Voilà. Donc j'ai partagé, c'est un gars de Valence justement que je connais qui a mis cette photo et je l'ai tout de suite partagée parce que elle m'a vraiment touché parce que ça m'a rappelé qui Jésus était pour moi, qu'est-ce que Jésus avait fait dans ma vie et du coup j'avais envie de vous la montrer parce que dans ce flot de la grâce, c'est un petit peu le point de départ ça, de ce mouvement de la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mon papa est là aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, mon papa, tout le monde, mon papa, voilà, les présentations sont faites. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on aimait Dieu, ça c'est peut-être le plus beau cadeau qui m'a été donné de la part du Seigneur. Mais c'est vrai que... Je suis ensuite passé par des périodes où c'est mon cheminement, quoi. Je me suis beaucoup éloigné. Et c'est vrai que cette photo, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Jésus, quoi. C'est-à-dire, il est venu me chercher, quoi, là où j'étais. Et merci Seigneur pour les émotions, même si ça, c'est un peu parfois, on voit plus trop nos notes, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai. Et du coup, je voulais vous le partager parce que c'était vraiment ça. Vraiment ça. Et j'avais un passage à lire, donc pour ceux qui ont vos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Jean 15, ou alors vous pouvez aller sur votre application, sur votre smartphone, Matthieu, Marc, Luc et Jean 15. Donc je vais faire pas trop long parce que bon, ça va encore, j'ai encore un peu de temps. Mais Jean 15. Et c'est marrant, cette fameuse patiente, Madame P., quand on fait les études de cas, quand on étudie à l'école d'infirmiers, on dit les noms des patients, mais on dit juste la première lettre. Je ne pense pas que personne la connaisse ici, mais ce n'est pas grave. Madame P, y a sa sœur qui est chrétienne, ou je ne sais pas si elle est protestante, catholique, mais en tout cas, chaque année, elle lui offre la bonne semence. Et du coup, même si je n'ai pas eu le temps, si je n'ai pas écouté de la louange, je sais que chez elle, je démarre à 6 heures chez elle. J'ai toujours mon petit feuillet de la bonne semence pour méditer pendant que... Bon, je vous passe les détails de mon métier, les infirmiers comprendront et ceux qui sont dans le secteur. Et comme de par hasard, cette semaine, il y avait le verset sur lequel je voulais vous parler. Donc Jean 15, du verset 1 à 8. Alors, par rapport à ma prépa, je suis passé sur une autre Bible. Je pense que ça doit dire à peu près la même chose quand même. Non, là, je suis dans Acte 15. Pouh ! Excusez-moi, ça va venir. C'est l'émotion. Jean 15, voilà. Ah, voilà, la vigne et les sarments, c'est ça dont je veux parler. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. On va lire du 1 à 8, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, ça c'est le verset sur lequel on va rester le plus, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. On l'a dit, ça a été prié pendant la louange, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Et ce passage m'a vraiment parlé et je remercie Dieu de me l'avoir rappelé chez cette patiente. Vraiment, ce passage, j'ai trouvé qu'il était vraiment super par rapport à ce que vraiment j'avais à cœur, ce flot de la grâce, ce mouvement que j'ai vécu jeudi matin, où vous êtes dans un état un petit peu de déprime, de désespoir, vous levez les yeux au ciel, ça descend dans votre cœur, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu descend dans votre cœur, et tout de suite, comme je vous l'ai dit, vous êtes poussé vers les autres. Poussé par l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de statique que vous gardez pour vous et tac, vous n'en faites rien. Non, ça vient, ça vous touche, ça vous transforme et immédiatement, ça vous envoie vers les autres. Il y a un mouvement comme ça, perpétuel de révélation. Et les trois A, c'est ça, c'est adorer Dieu. Tout commence, je vais suivre un peu mes notes, tout commence quand, par lever les yeux vers lui. Ensuite, ça vient apprendre à vivre comme Jésus, ça vient nous toucher, nous transformer en profondeur, et ça nous amène plus loin vers les autres, quoi, vers ce royaume que Dieu nous a envoyé de déclarer et de démontrer. On réfléchit à des slogans, vous savez, voilà, on va bientôt investir ce bâtiment pleinement, et du coup on est dans des réflexions, notamment de slogans, et Emmanuel, ma chère et tendre épouse, avait eu cette idée pour illustrer les 3A de manière un peu plus poétique, on va dire, plus haut, plus profond, plus loin. Je ne sais pas si on va au final le choisir, mais en tout cas, l'idée était là. J'ai trouvé plus haut, plus profond, plus loin. Plus haut dans le sens aller plus loin dans l'adoration, se perdre plus loin dans l'adoration, plus profond, laisser Dieu atteindre les moindres coins de nos cœurs, même les plus noirs, et plus loin, aller conquérir les lieux qu'il nous a donnés. Waouh, merci Seigneur, c'est ça qu'on veut vivre. Et du coup, j'avais envie de reprendre un petit peu ce passage. Il y a beaucoup de choses dans ce passage et je ne vais pas forcément tout développer, mais l'importance, je voulais aussi revenir sur l'importance de... Donc là, c'est beaucoup sur la vigne, c'est une image, une parabole vraiment agricole. Et en faisant un peu de recherche, j'ai vu que la vigne était utilisée, enfin cette image de vigne était utilisée principalement pour 3 choses dans la Bible, 2 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. Donc bien sûr, la 3e, c'est celle qu'on a lue aujourd'hui, ça représente Jésus et nous, il est le cep, nous sommes les sarments, d'accord. La première fois qu'il y a une image forte comme ça de la vigne, vous savez, c'est quand Moïse envoie des espions, il envoie des hommes en Canaan après la sortie d'Égypte. Pour voir un peu comment est ce pays, quoi. Et certains reviennent, vous savez, il est parlé d'une grappe de raisin qui faisait, je crois, la taille de... Enfin, dans les images, on la montre comme la taille d'un homme. Je ne sais plus la taille exacte, mais en gros, c'était une taille de raisin transgénique, quoi. La grappe énormissime, il fallait 2 pour la porter. Et du coup, là, dans la vigne, c'est vraiment la bénédiction. C'est le signe de la bénédiction, c'est le signe que Dieu envoie, voilà, le pays où coule le lait et le miel. Il y a vraiment cette notion de bénédiction pour le peuple d'Israël. La deuxième, c'est le psaume 80. Je ne vais pas m'y étendre aujourd'hui, vous le lirez, mais c'est intéressant. Là, c'est Israël qui est... Il y a cette image de la vigne par rapport à Israël. Ça, c'est le psaume 80. Et on passe dans le Nouveau Testament. Jésus... Le Fils de Dieu qui vient sur terre, Jésus qui est Dieu, qui est homme et qui est Dieu en même temps, et Jésus par qui ceux qui ne faisaient pas partie du peuple Israël sont greffés, sont rattachés et peuvent bénéficier de ces fameuses promesses de bénédiction pour Israël. Et il y a là cette extension à tous les hommes de la bénédiction. Et je trouve ça intéressant que... Et pourquoi je dis ça? Parce que de manière plus humoristique, la vigne, vous me comprendrez, c'est aussi très important à Connect. On a pas mal d'amateurs de bon vin. Il y en a même qui ne boivent pas de vin. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, mais il y en a même qui ne boivent pas d'alcool, qui ramènent du bon vin. Donc là, quand vous atteignez ce point-là, c'est que vraiment, c'est des passionnés. Mais c'est vrai qu'on aime bien manger dans notre communauté. On aime boire du bon vin à notre week-end de rentrée. D'ailleurs, autant la nourriture n'était pas extraordinaire. C'est ce que beaucoup on s'est dit. Mais par contre, on a bu du bon vin. Donc, c'est déjà ça. Mais du coup, ça nous parle. Je me rappelle une fois, tu te rappelles, papa, on faisait des soirées dégustation de vin et il y avait toujours ces partages autour du vin dans la Bible, justement. Et du coup, ça parle. Le vin, c'est... Souvent, on dit le vin, c'est très français. Vous savez, en ce moment, ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool et tout, donc on parle un peu de ça à la radio et tout. Mais en fait, non, le vin, c'est bien avant. C'est même pas gaulois, c'est bien avant ça. les Romains et peut-être, et je pense même à les civilisations précédant les Romains. Puis dans la Bible, quoi, Jésus qui transforme l'eau en vin. Donc bon, c'est spirituel, c'est bien. Je pense qu'on est dans le bon en aimant le bon vin quand même. Si Jésus a transformé de l'eau, et apparemment dans cet exemple-là, les gens avaient quand même déjà bu un bon coup, et il a quand même fait du vin encore meilleur. Donc voilà, on est bon là, je pense, les amis. Donc ça, c'était la petite boutade. Mais la vigne, quoi. La vigne, c'est important. Et dans ce passage-là, il y a des choses vraiment fortes. Voilà. Donc j'en ai listé quelques-unes. Déjà, au début, il parle c'est le père qui est le vigneron. Le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne. Et Jésus vient s'inscrire. Dans Jean, il y a beaucoup, si vous lisez Jean, il y a beaucoup la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est magnifique. Je crois que c'est Jean 17 où c'est vraiment, c'est le paroxysme là vraiment où la relation entre les trois personnes de Dieu qui est magnifique, quoi, de voir le rapport entre eux, entre le Père et le Fils, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ne cherchons pas à comprendre, les amis, la Trinité. D'ailleurs, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais ne cherchons pas. Mais c'est juste magnifique, quoi, quand on lit ça. C'est beau de voir comment. Et là, j'aime que Jésus recentre ça. Il parle de la vigne, mais il dit « Mon Père est le vigneron ». Donc lui, il vient s'inscrire dans le Père, dans l'amour du Père, dans le dessein du Père pour les disciples, pour ceux à qui il est en train de s'adresser. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, sur un peu de contexte, sans rentrer dans trop de détails, mais Jésus, quand il parle de ça, c'est juste après d'avoir lavé les pieds des disciples. On approche vraiment de sa mort, quoi. Dans ces moments-là, je pense, pour ceux qui ont perdu des membres chers de famille, je pense que c'est des moments, quand on sait que ça va venir, il y a des paroles fortes qui sont échangées, il y a des retrouvailles, il y a des au revoir, il y a des choses pour avoir assisté à des décès, surtout dans mon travail. Là, c'est des moments, il y a une atmosphère particulière. Et Jésus, je pense, là, est en train de dire des choses extrêmement importantes. Il va partir. D'ailleurs, il dit, c'est bien que je m'en aille, parce que le fait que je m'en aille, il y a l'Esprit qui va venir, le Consolateur. Donc, Jésus est complètement conscient de ça. Mais juste pour dire, voilà, c'est un moment important. Du coup, il y a vraiment cette idée du Père. Et Jésus qui affirme, je suis le cep. Jésus, il n'avait pas peur d'affirmer des vérités comme ça. Et au verset 3, il parle ensuite de la grâce, mais pas de la manière dont on parle de la grâce habituellement. Vous aussi, donc je reprends, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Et là, bien sûr, ce qui est au centre, c'est l'enseignement que Jésus, pendant les 3 ans où il était avec eux, leur a donné. Ils ont été purifiés par ça. Et là, alors qu'on a dit dans ce verset 5, en moi, si vous demeurez en moi, il y a vraiment ce truc de l'enseignement que Dieu leur a donné. Il y a vraiment cette idée de révélation. Quand on demeure en Dieu, c'est là qu'il y a la révélation qui vient. Et la révélation que les disciples ont reçue, les révélations et la grande révélation que les disciples ont reçue pendant tous ces temps qu'ils ont passé avec Jésus, eh bien, c'est ça qui les a purifiés. Ça, j'ai trouvé déjà que c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Là où trop souvent, on cherche à mériter l'amour de Dieu, on cherche à mériter la grâce de Dieu par nos actions. Non, Jésus dit bien dans ce passage, c'est la révélation, c'est l'enseignement. Et il parle aussi plus loin d'obéissance. On a besoin, les amis, le fait de demeurer en Dieu. Si on décrypte un peu ça, on a besoin de révélation. On a besoin d'être en lui aussi pour recevoir sa révélation. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est vrai, ça ne dit pas vient de ce qu'on a entendu hier ou même de ce qu'on a entendu il y a 2 heures. C'est pour ça que je parle de flot de la grâce de Dieu en nous. C'est parce que c'est quelque chose de continu. La foi, demeurer là, la révélation. Quand on demeure en lui, il y a sa révélation qui peut venir. C'est sa révélation qui nous purifie. Et je voulais parler de la grâce parce que c'est vraiment important de réaliser, c'est Éphésiens 2, je ne l'ai pas trop dans mes notes, mais qui dit, ben, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cette révélation que Dieu nous donne, et c'est une révélation de la grâce qui nous donne par sa grâce. Nous seuls, en fait, on répond à cette révélation, mais seuls, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas créer cette révélation en nous. Il faut que ça vienne de lui. C'est un don gratuit de Dieu. C'est ce que dit Éphésiens 2. Et vraiment, le fait, là où on cherche... Voilà, là où on se sent sale, là où on se sent pécheur, là où on se sent pas ce que réellement Jésus dit de nous. Le fait de demeurer en lui, d'être dans ce had, d'être dans cette dimension verticale, dans cette dimension où ça vient en nous, et bien là, il y a la révélation qui vient. Vous êtes pur, ça n'est pas lié au fruit. Vous savez, après, ça parle beaucoup de porter du fruit. Mais là, la pureté n'est pas du tout liée à ce qu'on fait, au fruit. C'est lié à la révélation qui vient par l'enseignement. Et Dieu nous enseigne de plein de manières différentes. Je passe la foi. C'est la foi qui nous sauve. C'est des choses qu'on sait, quoi. Mais on a quand même toujours tendance à vouloir se justifier, à vouloir mériter un peu l'amour, la grâce de Dieu par nous. Enfin, je pense que c'est humain. Et justement, le fait de demeurer en Dieu, on s'éloigne de ce chemin-là. On dit non, Seigneur, tu me révèles. Tu me révèles comment tu me vois, ce qu'on a fait, les ateliers qu'on a fait au week-end de rentrée. Ça laisse place à la révélation. C'est en réponse à une révélation qui vient de Dieu. Verset 4, c'est là où il parle de demeurer. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter de fruits tout seul. Ça c'est pareil. Combien de fois on c'est par nos propres forces, vous savez. On est là et souvent, bien souvent, on veut faire des choses pour Dieu. C'est pour lui qu'on veut faire ça. Et j'ai pas noté le passage, mais vous vous rappelez bien où les disciples, il y a un moment où ils disent « Mais pour toi, on a fait ça, pour toi, on a fait ça. » Je ne vous ai pas connu. Bam. Ça doit être violent à recevoir ça de la part de Jésus. Je pense que les disciples savaient tellement qu'ils l'aimaient que ça les a pas offensés. Mais quand même, c'est violent comme réponse. Et combien de fois, pareil, on veut faire des choses, on veut être dans les fruits. Mais c'est les fruits qui viennent du fait de demeurer en lui. C'est les fruits que lui nous amène à porter, plutôt que ceux que nous, on veut porter. On veut porter pour lui. Et un petit témoignage là-dessus, cette semaine, c'est des choses de fraîches que je vous raconte. On faisait pas mal de choses pour l'église, pour la conférence, pour tout ça. On bossait beaucoup. Et y a eu un jour où j'étais en overdose. Et je disais à Emmanuel, c'est fou. Des fois, l'Église, j'ai l'impression d'idolâtrer l'Église. C'est-à-dire, parce que je faisais tellement de choses pour Dieu, pour l'Église, j'arrêtais pas. T'as toutes mes pensées, je disais à Olivier Pétard, il faut vraiment qu'on prie pour moi pour la délire. Toutes mes pensées étaient tournées vers ça, presque j'arrivais plus à me détourner de tout ce que j'avais à faire. Ce fameux petit vélo qui tourne. Et à un moment, j'ai dit à Emmanuel, c'est dingue, je me sens loin de Dieu. L'Église, je laissais l'Église se mettre entre Dieu et moi. C'est complètement paradoxal. Je me sentais éloigné de Dieu alors que j'étais en train de préparer toutes ces choses, de faire toutes ces choses-là pour Dieu. Et là, j'ai senti, non, c'était malsain. C'est vraiment l'idolâtrie, vous savez, quand il y a vraiment quelque chose qui vient se mettre entre vous et votre Dieu, votre relation qui vient être toxique dans votre relation avec Dieu. L'activisme, quoi. Un truc où aujourd'hui on est poussé, c'est vrai, on est dans cette société où ça va tellement à 10 000 à l'heure, c'est une tentation qui nous guette tous. Et le fait de demeurer en Dieu, comme par hasard, de laisser tout de côté, même l'Église, des fois, mais ça peut être plein de bonnes choses, même pour notre famille, pour nos enfants. Des fois, Francis Chan, là, un pasteur bien connu, j'ai pas trop écouté encore l'intégralité de ça, mais il y avait une punchline qui m'avait marqué, il disait « Arrêtons d'idolâtrer nos familles ». Parce que même les meilleures choses peuvent se mettre en travers de Dieu et nous. D'où l'importance, je crois que, j'ai pas encore Olivier écouté ton message, mais les priorités. D'abord, mon Dieu. Et comme par hasard, dès que vous commencez par ça, tout le reste trouve sa place, trouve son équilibre. L'aspect aussi collectif. Si vous avez vu un pied de vigne, donc il y a le cep, le tronc un peu, qui porte les sarments. Et bien sûr, et d'ailleurs dans les études un peu que j'ai regardées sur internet par rapport à tout ça, le mot même qui est utilisé pour les sarments, il y a certains endroits dans la Bible où c'est un mot en grec singulier. Techniquement, c'est pas du grec là, non, c'est pas dans le grec, mais en tout cas, il y a un mot où il y a des endroits où il est. Mais là, c'est une des rares fois, si ce n'est la seule fois, où il est utilisé au pluriel. Et ça, j'ai trouvé très intéressant par rapport à ce qu'on vit en Église. Parce que là, demeurer en moi, vous savez, ça pourrait être quelque chose de très individuel. Et d'ailleurs, il y a rien de mal. D'ailleurs, c'est individuel. Enfin, la foi, c'est individuel dans un sens. Mais la foi, ça n'est pas que individuel. Et là, Jésus utilise exprès, je pense, un mot pluriel pour les sarments pour vraiment dire, c'est un beau nom comme école, les Sarments, bravo, vous avez bien, bien choisi, pour expliquer que en fait, on est plusieurs sur le tronc, et le fait qu'on soit plusieurs sur ce cep, ça c'est vraiment une image de l'Église. C'est une image qu'il y a un aspect de demeurer en lui personnellement, mais il y a aussi, qui est très important, un aspect demeurer collectivement en lui. Et ça, c'est la beauté de l'Église, quoi. C'est quand on se rassemble, je sais pas, moi, ça me fait toujours quelque chose quand je vais dans des grandes conférences ou quoi, des fois des milliers de personnes, et vous voyez des milliers de personnes, les bras en l'air, en train d'adorer Dieu. Bam, là, il y a un sentiment de puissance où tu ressors de là, tu dis, ils sont où les méchants? Il est où le diable, quoi? On a l'impression que plus rien ne peut nous arrêter parce qu'il y a cette notion collective de la foi qui Dieu nous a pas envoyé au casse-pipe tout seul, quoi. Quand il dit allez, c'est au pluriel, quoi. Il dit pas va tout seul dans ton coin sans soutien de tes amis dans la prière, etc. Non. Pareil, dans Éphésiens aussi, il dit Dieu vous a ressuscité ensemble et il vous a assis ensemble dans les lieux célestes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un. Enfin, je veux pas arrêter. Enfin, notre société, voilà, des fois, c'est des grandes phrases. Mais c'est vrai, mine de rien, que on regarde beaucoup à ce que nous, on veut. Et encore une fois, c'est bien de chercher notre équilibre et tout. Il faut peut-être commencer par là. Mais parfois, on reste peut-être un peu trop dans cette dimension-là. Et alors que d'autres endroits du monde, non occidentaux, peut-être vont plus être dans le côté collectivité, le côté ensemble, on s'entraide, on se soutient, on vit les choses ensemble. Et franchement, c'est ce qu'on vit à Connect, quoi. Moi, je suis émerveillé de voir quand il y a quelqu'un qui est malade, quand il y a quelqu'un qui souffre, quand il y a machin, la solidarité rapidement qui se met en place, etc. C'est magnifique. Mais aussi dans le fait de demeurer, il y a vraiment quelque chose où on s'encourage. Vous savez, les Anglais disent stir, vraiment, on se pousse les uns les autres à cette intimité avec Dieu, ce fait de demeurer pour porter beaucoup de fruits. Là, j'en parle pas beaucoup, mais en fait, quand même, le but dans tout ça, c'est ce fait qu'on porte du fruit. Parce qu'en fait, si on fait ça, ben, on va porter du fruit et individuellement là où Dieu nous a placés, mais aussi collectivement, quoi. On va grandir en influence en tant que communauté. Cet aspect collectif. Alors que bien sûr, le fait, vous savez, si on ne demeure pas, si on n'est pas vraiment soudé au cep, la Bible dit, ben, on est retranché, on tombe au sol, on sèche, on est brûlé. Et là, je ne pense pas que Jésus essaye de nous faire peur. Il essaye juste de nous expliquer que le fait de ne pas demeurer en lui, eh bien, tout de suite, qu'est-ce qui va venir? C'est la mort, quoi, qui va venir en nous. Parce que vous savez, quand une branche est la moitié arrachée, ben, elle meurt. Et tac, on va au feu, on sert plus à rien. C'est pas que c'est pour servir à quelque chose, mais on se vide de la vie du cep, quoi, tout simplement. Et l'importance du collectif dans ça aussi, quoi. Quand quelqu'un ne va pas, les textos, les appels, les paf, on met la main sur l'épaule, on pas trop fort, on s'encourage les uns les autres. On vit pas ça tout seul. C'est beau. C'est beau et c'est important parce que sans ça aussi, on meurt, quoi. On voit beaucoup, c'est vrai, de chrétiens isolés qui sont malheureux, qui vont vivre une partie de leur foi, par exemple sur Internet ou quoi, ça va leur faire du bien de temps en temps. Mais il y a une tristesse aussi dans cette solitude, on le voit. Et voilà, d'encourager les gens. Oui, les églises ne sont pas parfaites. Et oui, malheureusement, on se fait du mal. Mais derrière, c'est bien, on peut se demander pardon, et on avance ensemble, on grandit, quoi. Comment je voulais être dans le concret pour finir. Donc encore une fois, mon idée, vous me suivez? L'idée, c'est vraiment de porter du fruit, mais pas coûte que coûte. C'est vraiment en demeurant, en demeurant, en demeurant. Parce que sinon, ben, on va se faire du mal, on va faire du mal autour de nous, et ça va pas être bon, quoi. Ça va pas être bon. Comment? Et là, j'avais plusieurs choses, mais il y en a une particulière, pareil, par rapport à la vision, parce qu'on a vraiment à cœur de vivre en Église. La louange, l'adoration, je veux dire, encore une fois, on n'a pas cherché. La plupart des gens qui font partie de cette Église, en gros, il y a 50%, voire plus, des gens qui jouent d'un instrument, qui ont vraiment un cœur pour l'adoration. Donc ça, je pense que ce n'est pas un hasard, c'est vraiment l'appel premier, c'est la mission de notre Église. C'est aussi pour ça qu'on fait des soirées louanges, pas pour nous, enfin pour la ville, quoi, pour vraiment être un endroit où il y a de l'adoration et il y a de l'intercession et il y a de la prière pour la Bible. Deuxièmement, dans cet aspect collectif que je viens de vous partager, j'avais envie d'insister sur la redevabilité. On a tous besoin d'avoir quelqu'un Vous savez, des fois, quand on a un peu mauvaise haleine, on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui va venir nous voir et dire « Mon ami, prends un tic-tac. » Non, prends un deuxième. Non, c'est un pasteur américain qui avait sorti cette blague dans un message qui m'avait écroulé de rire. Mais c'est une belle image, je trouve. La mauvaise haleine, voilà, bon, ça, c'est pour tout le monde, hein, on est tous dans ça. Merci Seigneur pour d'avoir créé les chewing-gums. Mais on a tous besoin, tout ça pour dire qu'on a tous besoin d'avoir quelqu'un à qui on va pouvoir échanger les choses avec lesquelles on lutte, tout simplement, quoi. Des péchés récurrents dont on n'arrive pas à se débarrasser, des difficultés par lesquelles on traverse, bien sûr, des joies aussi dans lesquelles se réjouir. Mais ça, c'est vraiment l'aspect collectif, quoi, de demeurer sur le cep, mais quand on est sur le cep, du coup, ça met le lien aussi entre nous, qui nous permet de vivre ça et qui permet qu'on guérisse de ces choses-là, qu'on avance dans ces choses-là. Parce que, comme par hasard, quand vous êtes redevable de quelqu'un, ce fameux péché avec lequel vous galérez, eh bien, la personne va pouvoir te dire, bah, tu vois, voilà, on va prier pour ça, on va croire que Dieu va agir, et dans une semaine, eh bien, on refait le point, quoi. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu as vu Dieu agir? Sur quels aspects tu es encore dans le défi, etc. Voilà, j'avais envie d'insister sur cette. Vous savez, on a cinq valeurs centrales dans notre église, on a quatre valeurs centrales, pardon, et l'une d'entre elles, c'est l'authenticité. Dans cette redevabilité, il y a cette authenticité, d'oser être vrai. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très bien sur le papier, l'authenticité, mais quand vient le moment où il faut être réellement authentique, eh bien, ça pique un peu, quoi. D'où l'importance de trouver quelqu'un, voilà, à qui on se sent de partager des choses. Le but, c'est pas de partager ça à tout le monde. Le but, c'est de partager ça peut-être à une personne qui va savoir, qui va garder ça pour elle, bien sûr, et avec qui on va pouvoir cheminer. Et la chose sur laquelle je voulais le plus insister, c'est une révélation un peu que Dieu nous a donnée ces derniers mois. C'est quelque chose que portent aussi beaucoup Olivier et Elodie. C'est vraiment la prière. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un, comme un guerrier de prière. Vraiment, ce n'est pas la chose qui est la plus facile et dans laquelle je vais le plus. Mais j'ai lu un bouquin là-dessus et Dieu, cet été, et enfin non, au printemps, et Dieu m'a vraiment parlé sur la prière. Dans ce bouquin, il y avait surtout beaucoup de témoignages. Et voilà la puissance de la prière, quoi. C'est au verset 7 où il dit: Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Donc la prière, c'est pas, comme j'ai noté, supplier un Dieu avare pour le convaincre. C'est plutôt, dans l'aspect demeurer, c'est plutôt aligner nos cœurs sur le sien, pour comprendre sa volonté, la déclarer, c'est ça la prière, et la voir se manifester. C'est vraiment ça. On n'est pas dans une lutte avec Dieu pour lui expliquer qu'est-ce qu'il devrait faire. Lui, il sait très bien ce qu'il doit faire, mais c'est plus un alignement de mon cœur sur le cœur de Dieu. Et quand je marquais ces lignes-là, je vous répète cette phrase, je pense qu'elle est, elle est importante. Ça n'est pas supplier un Dieu avare pour le convaincre, c'est aligner nos cœurs sur le sien pour comprendre sa volonté, ou alors recevoir sa volonté, la déclarer et la voir se manifester. Et quand Jésus, dans un autre passage, nous enseigne à prier, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il parle vraiment, il prie, il n'est pas en train de supplier le Père, quoi. Il déclare juste que ta volonté soit faite, c'est simple, sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Et Matthieu 6, 6 aussi nous dit, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Vous savez, c'est pas les grandes prières à l'église, c'est super, ça s'encourage les uns les autres et tout, mais c'est la prière, je pense, qui remplit les. Bah non, je vais pas opposer les choses. En fait, ça, c'est super important de prier de manière collective. Mais après, il y a aussi cet aspect que quand Jésus enseigne comment on prie, qui peut-être est plus dans le quotidien. Va dans ta pièce la plus retirée. Ça t'assure un peu le cœur à cœur, tu vois. T'étais plus. Ça. Va dans la pièce la plus retirée. En 2018, il dirait. Coupe ta 3G, tes notifications, ton truc et tout, c'est un peu l'équivalent de 2018. Verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Dans la prière, c'est pas détaché du côté paternel de Dieu envers nous et qu'on n'est pas en train là d'essayer de forcer sa main. Un Père aime forcément ses enfants. Il veut le bonheur de ses enfants, donc on n'est pas en train d'essayer de dire Seigneur, s'il te plaît. Je sais, si je suis père, je sais ce qui est bon pour mes enfants. Et du coup, je n'attends que de répondre à leurs besoins, je n'attends que ça. Et la prière, c'est vraiment d'aligner nos cœurs sur le cœur de notre Père, qui attend que ça, en fait, qui est là, qui lui est dans ce lieu secret et nous y attend tout le temps. Il nous y attend tout le temps. Donc allons, les amis, cette semaine, dans notre lieu secret. Mais on avait aussi à cœur qu'il y ait un lieu secret de Connect. Et on ne sait pas encore laquelle ce sera et tout, mais on avait vraiment à cœur qu'il y ait un lieu qui soit dédié à la prière. Un lieu où on peut afficher des sujets de prière. Ça peut être pour des personnes de l'église, ça peut être pour des personnes hors de l'église, ça peut être pour la ville, ça peut être pour des pays du monde, mais un lieu voilà, où il y a une atmosphère propice à la prière, des petits canapés, des petits ce que vous voulez, un instrument, une cithare, hein, enfin bon, voilà, mais un lieu vraiment, parce que les amis, enfin encore une fois, je pense pas qu'il soit traduit en français, ce livre Dirty Glory, un titre très provocateur. La gloire sale, mais tellement puissant. En fait, pourquoi il dit la gloire sale, c'est parce qu'en fait, il parle de Jésus qui est devenu péché. Et Jésus, lui, qui était si parfait, qui était Dieu, enfin qui est Dieu, est devenu sale à notre place. Il est devenu péché. Et c'est là que est toute sa gloire, quoi, dans cette beauté de cette dans cette souffrance et dans ce sacrifice et dans cette résurrection. Mais vraiment un lieu voilà, qui soit dédié à la prière, et on le croit. D'ailleurs, vous savez que les amis, parfois on priait en courant dans l'église, parfois c'était dans d'autres contextes, mais on a vu plein de réponses aux prières, quoi. Je me rappelle prier pour le petit Jimmy, je me rappelle prier pour Françoise, pour son dos, je me rappelle prier pour... Et on oublie le nombre de réponses aux prières qu'il y a eu. Il y en a, c'est pour trouver du travail, il y en a, c'est pour... On a vu plein de sujets, les amis, on prie, Dieu répond, il est là, il veut bénir ses enfants. Donc la prière, quoi, dans ces comment demeurer, et bien, la prière, c'est peut-être une des choses avec l'adoration, avec le fait d'être ensemble. Donc voilà, pour qu'on puisse porter du fruit, quoi. Encore une fois, on est là, c'est pour ceux qui sont dehors, quoi. Donc je voulais juste finir, si on peut tous se lever, et, pour finir par la prière ensemble. Comme ça, on finit à l'heure, on peut libérer ceux qui s'occupent de nos enfants. J'avais deux choses à cœur pour prier ensemble. Premièrement, c'était le verset « La création soupire après la révélation des fils de Dieu ». Et encore une fois, évangéliser, souvent, ça peut faire peur, mais non. Dieu, si tu demeures en lui, c'est le flot de la grâce de Dieu, quoi. Il va porter du fruit. La grâce, ça veut dire que c'est un cadeau, ça veut dire que c'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait. Si tu demeures en lui, tu vas naturellement porter du fruit. Tu n'as pas besoin de dire « j'ai peur d'évangéliser », ça va se faire. Bien sûr, il va falloir de l'obéissance, bien sûr, mais la grâce de Dieu va tellement venir te toucher que tu ne vas pas pouvoir résister en fait, à ce que Dieu veut faire au travers de toi. Et au travers de ça, tu vas être béni toi-même. Et la deuxième chose, donc vraiment la révélation attend, les Montiliens attendent, les Mondragonais, les Boléennois, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, les euristes, enfin tout ce que vous voulez, ils attendent, ils nous attendent. Et d'ailleurs, certains sont déjà venus, certains ont déjà répondu à l'appel de la grâce de Dieu. Et deuxièmement, peut-être que toi, un peu comme moi jeudi matin, tu te sens loin en ce moment. Peut-être que tu te sens loin et tu n'as pas ce sentiment que, vous savez, on parlait d'émotion, vraiment ce côté sensation, tu ne te sens pas proche de ton Dieu, tu ne te sens pas proche de ton Papa Céleste en ce moment. Voilà, c'est ces deux choses pour lesquelles je voulais prier, donc je vous invite à fermer les yeux et on est comme ça tous devant notre Papa dans le ciel. Merci Papa. Merci Papa parce que la création nous attend. La création soupire après la révélation des fils et la révélation des filles de Dieu. Et Seigneur, mettons la main, les amis, sur notre cœur cet après-midi. Seigneur, on a la main sur notre cœur et on te dit, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Envoie-nous. Seigneur, on ne veut pas y aller par nos propres forces, ni par puissance, ni par force. On veut y aller par ton esprit. On veut y aller par ta révélation. On veut y aller par ce débordement de ce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, je choisis d'y aller, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Pas sans toi et pas sans mes amis non plus, Seigneur. Oh, Seigneur, je prends la décision, Seigneur, de ne pas m'autoriser à ne pas demeurer en toi. Seigneur, je veux demeurer en toi. Et Seigneur, pour les moments, peut-être c'est maintenant, où je me sens loin de toi. C'est comme s'il y avait un plafond au-dessus de ma tête et j'avais l'impression que tu n'étais pas accessible. Seigneur, viens. Et comme on l'a montré sur cette image, ta main est capable de venir nous chercher partout où nous sommes. Vous savez, je vous raconte ce témoignage pendant qu'on a encore les yeux fermés. Il y a mon cousin qui vivait des choses très dures. Il était au Canada et il était... tous les amis avec qui il avait déménagé là-bas étaient revenus en France petit à petit. Il s'était retrouvé dans un état de déprime totale. Il vivait des choses dures dans sa famille. Et une nuit, il était seul dans ce grand appartement. Il était loin de Dieu. Il n'avait plus de relation avec Dieu depuis plusieurs moments. Il était tellement mal qu'il a levé la main au ciel dans son lit, dans le noir. Il a mis sa main en position verticale comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé, et je vous promets que ce type-là, pour ceux qui le connaissent, c'est pas le genre à raconter des bobards, c'est pas le genre à dire des gentilles choses chrétiennes. Il a senti une main saisir sa main. Physiquement, il a senti. Et immédiatement, il a redonné sa vie à Christ. Il a trouvé une femme chrétienne, sa vie a changé. Et les amis, si vous êtes dans ce lieu en ce moment, si vous sentez loin, tendez votre main vers lui. La Bible dit, si tu demeures en Jésus, Jésus viendra demeurer en toi. Ça veut dire si tu l'appelles au secours, si tu étends ta main, il va saisir ta main et il va changer ton cœur, il va changer ta vie. Ah Seigneur, Seigneur, on veut être un peuple de prière. Ce que je ne vous ai pas dit par rapport à cet exemple, c'est qu'on a la chance d'avoir une grand-mère dans notre famille qui est toujours là et qui est, elle, pour le coup, une guerrière de prière. Et toute notre vie, elle nous a dit, dès qu'on était enfant, je prie pour Dieu, je prie. Et je me rappelle, elle disait à mon cousin quand on avait 8-10 ans, je prie pour que Jésus change ton cœur. Parce qu'elle voyait qu'il était dur. Et alors qu'elle a prié toute sa vie pour nous, il y a ces choses-là qui se sont produites. Jésus est venu nous chercher un par un. Oh Seigneur, Seigneur, nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi. Merci parce que tu es celui qui veut demeurer en nous. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Oui, l'ennemi essaye de nous séparer. L'ennemi essaye de semer la division entre nous et notre Dieu, entre nous et les uns les autres. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Merci Jésus, tu es ce cep. Et cet après-midi, nous sommes ces sarments. Ensemble, unis sur toi, solidement attachés Seigneur. Rien ne pourra nous détacher, nous amener à la mort. Car tu es notre Dieu. Nul ne nous ravira de ta main. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. En fait, les parents, un parent sur deux au moins peut aller chercher les enfants. C'est important de libérer. Mais voilà, si vous êtes... On va finir par un refrain, un chant quand même, parce que voilà, pour vraiment sceller ces choses-là, pendant qu'un parent va chercher les enfants. Merci Jésus. Amen, brûle Seigneur, brûle, consume nos cœurs Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu fais en nous, Seigneur, autour de nous. Merci pour les témoignages, Seigneur, qui vont venir. Amen, Seigneur. Amen. Mais écoutez, les amis, c'est la fin de ce moment ensemble. Je vous remercie d'être venus. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour encore un bon temps ensemble. Et dans 5 minutes, pour ceux qui... On a fait l'annonce, du coup, Sam. Pour ceux qui se joignent à la répétition pour Noël. Et bien voilà. Bonne semaine à tous. Soyez bénis.